Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Amen. Alors, je voudrais encore une fois de plus saluer nos bien-aimés qui sont connectés, ceux qui sont ici. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, ce soir encore, nous sommes venus partager un bout de l'Écriture et surtout prier. Amen. Prier. Le Seigneur Jésus a dit quelque part dans les Écritures que ma maison est son de prière. Si on vient à l'église, ce qu'on ne prie pas, c'est qu'on n'est pas dans la maison de Dieu. On est partout sauf dans la maison de Dieu. Amen. Alors, ce soir, je voudrais qu'on partage sur un thème très, très important, qui est celui-ci, comprendre et détruire l'embargo satanique. Comprendre et détruire l'embargo satanique. Depuis un moment, nous essayons d'avoir des réflexions chaque vendredi sur des thèmes liés à nos fondations, sur des thèmes liés à la manipulation de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Alors, ce soir, nous parlerons de l'embargo. Nous parlerons de l'embargo. Nous parlerons plus précisément de l'embargo satanique. Alléluia. Alléluia. Alors, nous parlons de comprendre et détruire l'embargo satanique. Alors, c'est quoi l'embargo? L'embargo est une limitation. L'embargo est un blocage. L'embargo est une interdiction. Alléluia. Une interdiction qui peut être légale. Et quand l'ennemi ou bien un adversaire veut contraindre une nation adverse à fonctionner avec lui, avec elle, et qu'elle n'accepte pas, cette nation puissante la met sur ce qu'on appelle un embargo. Alléluia. Un embargo. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, la Russie aujourd'hui met pratiquement l'Ukraine en embargo. Alléluia. À un moment donné, ils ont bloqué le blé. Toute une moitié de l'Afrique a commencé et de l'Europe ont commencé à souffrir de faim et les prix se sont envolés. Alors, chaque fois qu'il y a un embargo, il y a un blocage. Chaque fois qu'il y a un embargo, il y a une limitation. Chaque fois qu'il y a un embargo, il y a l'incapacité à aller au-delà de ce qu'on pouvait faire hier. Amen. Il y a, chaque fois qu'il y a un embargo, il y a la non-autorisation d'aller et de venir comme on le souhaite, comme on le veut. Est-ce quelqu'un avec moi? Alors, dans notre cas plus précisément, nous parlons d'embargo satanique. L'embargo satanique est donc une limitation imposée à une personne, imposée à une famille, imposée à une communauté, imposée à une nation même. Alléluia. Donc, vous pouvez voir imposée même à un lieu, imposée à une chose. Alléluia. Donc, si nous prenons notre étude, notre texte de ce soir, nous le prendrons dans le livre de Josué, chapitre 6, le verset 1. Josué 6, le verset 1. Alors, je lis au nom de Jésus. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien. Alors, la Bible ici nous parle de Jéricho qui était fermé, Jéricho qui était barricadé. Chaque fois qu'une vie est fermée, chaque fois qu'une vie est barricadée, chaque fois qu'on ne peut plus sortir et rentrer dans une ville comme on le souhaite, bien aimé, cet endroit est sous embargo. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alors, l'embargo donc est une stratégie du monde des ténèbres. Une stratégie utilisée par le monde des ténèbres pour empêcher les bonnes choses, parfois d'atteindre une personne. Observez dans le livre de Daniel chapitre 9, la Bible nous parle de Daniel qui avait prié, cherché la face de Dieu. Et la Bible nous dit, pendant 21 jours, Daniel a été à la brèche, Daniel a crié à Dieu, mais il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas d'intervention, il n'y avait pas de réponse à sa prière, tout simplement. Et la Bible nous dit que Dieu voyant que la situation était compliquée, va envoyer un ange à Daniel qui va lui donner un renseignement important. La Bible nous dit que l'ange va lui dire, Daniel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, Dieu, le monde des ténèbres s'est opposé à la réponse. Amen. Le monde des ténèbres s'est opposé. Et du coup, la prière même de Daniel était sous embargo. Alléluia. Il y a des gens dont les prières sont sous embargo. Et tant que ce blocage n'est pas libéré, même leur prière ne peut pas avoir un exaucement prompt et rapide. Que quelqu'un dise amen. Alors, c'est très important. C'est très important de comprendre que l'embargo est une des armes que l'ennemi utilise pour empêcher un enfant de Dieu d'aller rapidement, d'aller promptement et d'aller de manière continue dans sa marche tienne. Amen. La Bible nous dit ici donc que Jéricho était barricadé. Jéricho était fermé. Jéricho était ne donnait pas accès. Mais rappelons-nous une chose. Qui est Jéricho? Jéricho est la première ville que Josué, lorsqu'il va avoir le mandat de Dieu, après le départ de Moïse, va être la première ville qu'il va affronter dans son parcours et dans sa progression vers Canaan. Alléluia. Et Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. Jéricho veut dire la ville de la lune. Amen. La ville de la lune. Ça veut dire quelque part, Jéricho est un centre spirituel du monde des ténèbres. Est un centre spirituel des adorateurs lunaires. Alléluia. Est un centre spirituel. Alors, de ce fait, Jéricho constituait l'embargo, le blocage pour que les enfants de Dieu atteignent leurs objectifs. Alléluia. Je ne sais pas quel embargo est devant toi. Alors, pour Israël ici, c'était une ville. Peut-être devant ta vie, c'est une situation. Peut-être devant ta vie, c'est une personne. Devant ta vie, c'est une circonstance. C'est une situation. Alléluia. Alors, ça peut épouser toute forme de nature, toute forme d'identité. Alors, il va falloir le repérer et il va falloir l'identifier pour pouvoir avoir le succès sur Jéricho. Et donc, Jéricho est devenu une ville idolâtre. Idolâtre. Une ville qui n'adore pas le Dieu véritable, le Dieu authentique. Et qui était conscient qu'il fallait arrêter Israël. Alléluia. Qui était conscient qu'il fallait bloquer Israël. Vous voyez? C'est quoi plus tard, lorsqu'ils vont arriver au pays de Moab et qu'ils vont demander le droit de passage au pays de Moab, le roi de Moab va dire que non, la paix, si c'est un piège. S'ils ont fait ça à Jéricho, parce que Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. Jéricho était la deuxième grande ville après l'Égypte. Amen. En termes de puissance, la Bible dit que les portes de Jéricho, les murs de Jéricho étaient tels qu'une voiture pouvait circuler dessus. Ce n'était pas une muraille d'un mètre, de deux mètres, ni de trois mètres. C'était une muraille dont seulement Dieu pouvait renverser. Amen. Dont seulement Dieu pouvait mettre hors d'état de nuit. Alors, si un mur de six mètres peut s'opposer à toi, physiquement, tu peux renverser un mur de 30 centimes. Amen. Tu peux renverser un mur de 40 centimes. Tu peux renverser un mur d'un mètre même. Tu peux renverser si tu presses fortement. Amen. Mais de 6 mètres, ça devient très compliqué. Il faut une force physique assez élevée. Amen. Et donc, vous voyez que Jéricho n'était pas donc physiquement une ville facile à abattre. Et pour associer à ça, un lieu de culte satanique, un lieu d'adoration satanique de la lune. Ça veut dire que c'était un lieu où des méchants, des adorateurs et contraires à Dieu s'unissaient pour maximiser la puissance. Alors, quand on parle également d'une ville idolâtre, on parle également d'une ville prospère. Parce que là où il y a l'idolâtrie, il y a la prospérité. Parce que les idoles, le commerce des idoles, amen, Rappelez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, cette jeune femme qui avait l'esprit de Python et qui faisait la prospérité de ses maîtres. Alléluia. Quand l'apôtre Paul va frapper cette femme, va maudire, va chasser cet esprit d'idolâtrie, de divination. La Bible dit que les gars vont aller parler au peuple, citer le contre les apôtres pour pouvoir les chasser de la ville. Vous voyez? Rappelez-vous également que Jésus, quand il entre dans le temple, il découvre vendeurs, commerçants dans le temple. Ça veut dire que dans ce temple, on vendait dans le temple de Dieu, on vendait des idoles qui rapportaient de l'argent. Qui rapportaient de l'argent. Et Jésus est venu taper les étapes où il y avait de l'argent un peu partout. Alléluia. Comme quoi, une des choses qui rapporte le plus d'argent dans le monde, c'est le commerce de l'idolâtrie. C'est le commerce de l'idolâtrie. Chaque année, on va au village débourser des grandes sommes d'argent pour adorer nos ancêtres, pour adorer les crânes, pour faire des rites de purification, des rites de veuvage, des rites de défunt, des funérailles. C'est beaucoup d'argent. Alléluia. C'est beaucoup d'argent. Et donc, Jéricho était également prospère. Et si vous lisez un peu plus loin, vous allez dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, le commentaire que les gens de Jéricho ont eu à l'endroit d'Élisée. Il m'a dit, la ville est bonne. Le séjour est bon. C'est-à-dire, la ville est prospère. Mais les eaux sont mauvaises. Amen. Et c'était une ville prospère qui a même attiré les fils des prophètes. Les fils des prophètes sont allés habiter plus tard à Jéricho à cause de la prospérité de cette ville. Alléluia. Amen. Donc, j'essaie de poser les fondements pour que vous compreniez où est-ce qui est Jéricho et où est-ce qu'on est en train d'arriver. Amen. Donc, parfois, on croit que le méchant qui nous attaque est quelqu'un de pauvre et qu'il veut s'approprier notre richesse. Pas toujours. Parfois, même le méchant est vraiment prospère. Amen. Celui qui combat ta vie, le Jéricho qui se tient devant ta vie, est quelqu'un d'assez grand, est quelqu'un d'assez costaud, d'assez robuste financièrement et matériellement. Amen. Donc, il est donc important de comprendre ce fait-là. Dans notre texte de ce soir, bien-aimé, nous voyons qu'un embargo avait été placé sur la ville de Jéricho. Personne n'y entrait et personne n'en sortait. Alors que Dieu a dit à Josué, que lève-toi, passe par Jéricho. Je t'envoie à Jéricho. Je t'envoie à Canaan, mais passe par Jéricho. Alléluia. Voyez, Josué chapitre 5, le verset 13. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel lui dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Dieu avait donné un ordre à Josué. C'est par toi que ce peuple va atteindre la terre promise. C'est par toi. Et le chemin de Jéricho, de Canaan, passait par Jéricho. Alléluia. Il y a un obstacle qui est devant ta vie et qui place une certaine forme d'embargo autour de ta destinée, autour de ta progression. Tant que tu ne refais pas cette opposition, tu ne peux pas arriver à Canaan. Amen. Tu ne peux pas arriver à Canaan. Alors, il y avait deux raisons pour lesquelles il fallait passer par Jéricho. Il y avait deux raisons pour lesquelles il fallait détruire Jéricho. Il y avait deux raisons pour lesquelles il fallait prendre autorité sur Jéricho. La première chose, bien aimé, c'était que la ville de Jéricho, amen, était riche. Une autre signification de Jéricho, c'est lieu de parfum. Amen. pleine de parfums. Ça veut dire que c'était une ville qui était riche en baumes. Les baumes, c'était pour les plaies. Amen. Il y a deux endroits dans les Écritures où il y avait du baume. Il y avait à Gala et il y avait à Jéricho. Amen. Et donc, c'est pourquoi on appelle Jésus le baume de Gala. Jésus, un de ses noms, c'est le baume de Gala. Amen. C'est-à-dire qu'il a la, il marche avec l'onction de la guérison. Amen. Alors, nous parlons ici de deux choses. Donc, la première chose, c'était que la ville était riche en or, en diamant, en pierres précieuses. Et que le peuple en avait besoin plus tard pour bâtir le temple. Amen. Alléluia. On ne place pas sur la vie de n'importe qui. On ne place pas un embargo sur la vie de n'importe quelle nation. Il y a quelques années, on avait mis l'embargo sur la Centrafrique. Elle ne pouvait pas avoir des armes pour se défendre contre ses ennemis. Alléluia. Pendant plusieurs années, la nation était divisée en deux. Le pays était divisé pas seulement en deux, même en quatre. Alléluia. Pendant que les adversaires avaient des armes les plus sophistiquées, l'armée n'avait que des vieilles armes pour aller combattre. Alléluia. Alors il est arrivé que le chef de l'État, qui est l'actuel, a gagné l'élection. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est allé vers les parents. Il a dit, écoutez, j'ai besoin d'armes pour aller défendre mon pays. Ouvrez la porte, libérez l'embargo. Et on lui a dit, non, l'embargo, ça ne vient pas de nous. Allez voir ailleurs. Et dans sa poursuite des solutions, il est allé vers une nation qui lui a proposé des armes. Et qu'il a envoyé non seulement des armes, mais des personnes pour le former. Et c'est comme ça que la peur a changé de camp. Alléluia. La peur a commencé à changer de camp. L'ennemi a commencé à reculer de plus en plus. Vous savez, une chose qui... Un jour, j'étais à Bangui et on circulait dans la voiture. Et on est arrivé, je n'ai plus la localisation, le nom de l'endroit. Et on me dit, on passe devant un bâtiment, un grand bâtiment, et puis on me dit, tu vois là-bas, c'est la présidence. J'ai dit, quelle présidence? La présidence du chef du village. Amen. Parce que nous, on est habitués au Cameroun que tu ne peux même pas voir la présidence. Amen. Tu vois le premier barrage. Mais c'est à l'intérieur. C'est des kilomètres encore à l'intérieur. Amen. Et les gens avaient fait des commerces pas très loin de la présidence tout autour. Et je me suis dit, wow. Regardez la présidente qui a l'image de l'embargo du pays. Amen. Mais gloire à Dieu, cet homme s'est battu. Et aujourd'hui, l'embargo est lâché progressivement. Amen. Bien-aimé, quand l'embargo est sur ta vie, tu deviens dépendant de tes ennemis. Tu deviens dépendant de tes adversaires. Tu deviens dépendant de ceux qui te veulent du mal. Alléluia. Alors, la première chose pour laquelle il fallait passer par Jéricho, c'était qu'elle était riche. Et le peuple d'Israël, Dieu voulait les enrichir pour la suite de leur vie. Amen. C'est pourquoi tu dois passer par Jéricho. Tu dois passer par Jéricho. La prospérité de Jéricho doit t'aider pour ton futur. Deuxième raison pour laquelle il fallait passer absolument par Jéricho, bien-aimé. C'était qu'il y avait dans Jéricho une femme dont il fallait mettre à l'abri. Cette femme s'appelait Rahab. Alléluia. Rahab. D'autres disent la prostituée. La parole dit elle avait comme travail là-bas la prostitution. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu a ses enfants partout. Alléluia. N'étercez pas rapidement quelqu'un de X ou de Y situation. Amen. Non seulement la Bible nous donne son nom, elle nous donne également sa fonction. pour nous montrer d'où cette personne va quitter pour s'associer à la lignée de Jésus. Et Rahab va devenir une des arrière-aïeules de Jésus. Amen. Dieu n'a pas considéré cette fonction-là, mais associée, parce qu'elle va épouser plus tard un des fils de Judas. Alléluia. Amen. Et bien aimé, cette femme, Rahab la prostituée, devait être délivrée de là. Parce que la vraie femme en elle avait été ordonnée, mandatée pour figurer dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Il y a des gens, à cause de certains embargos, ils se retrouvent à poser certains actes. Mais quand ils sont libérés de cet embargo, ils se comportent selon le dessein de Dieu dans leur vie. À cause d'un certain embargo, il y a des gens qui, à cause de la famine, ils se retrouvent à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. À cause de manque d'un endroit pour dormir, ils se retrouvent à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Mais si tu te focalises simplement par rapport à cela, tu vas manquer la vraie personne qui est à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, on pouvait dire à Rahab que dans leur famille, les gens sont que des prostituées. Pardon, on n'entre pas dans la famille là. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan. Amen. Le Seigneur ne regarde pas comme les hommes regardent. Il a d'ailleurs dit cela à Samuel. Samuel regarde à l'apparence. Jésus, Dieu, il regarde au cœur. Amen. Il regarde au cœur. J'ai vu beaucoup de temps à cause des situations d'embargo dont ils étaient soumis, se comporter d'une certaine manière. Alléluia. Se comporter d'une certaine manière. Ce soir, tu sortiras au nom de Jésus. Voyez? Des personnes aujourd'hui ne peuvent accéder à leur bien dans la vie parce qu'il y a un esprit de Jéricho qui se dresse comme un embargo satanique contre eux. Et cet embargo doit être détruit aujourd'hui au nom de Jésus. Vous voyez? Tout ce qui fait l'objet d'un embargo devient de la contrebande. Amen. Vous savez, quand il y a l'embargo quelque part, les prix flambent. Le marché noir prospère. Amen. Le marché noir prospère. Parce que la filière normale d'écoulement des produits a été faite. Maintenant, pour avoir le produit, tu dois entrer dans le marché noir. Tu dois entrer dans les micmacs pour t'en sortir. Amen. Tu dois entrer dans les micmacs. Ici à gauche, ici à droite, pour rattraper à gauche, pour rattraper à droite. Et beaucoup de gens se retrouvent dans de telles situations. Et s'il y a un embargo satanique sur le mariage pour une femme, par exemple, et qu'elle passe en contrebande pour se marier, ce mari devient une marchandise de contrebande. Vous voyez? Un embargo sur une femme et qu'elle essaye de se marier, le mari devient une marchandise. Alléluia. C'est pourquoi il faut briser l'embargo sur ta vie pour rester dans la légalité. Amen. Dans la légalité. Or, le mari devient une marchandise de contrebande. Ça veut dire que quoi? Ça devient au reste. Amen. Regardez cette femme à qui Jésus avait demandé « Combien de maris as-tu ?» La femme s'abstient. Elle va lui dire qu'elle en avait combien? 4. Et Jésus a dit « Même le cinquième qui est là. » 5 maris, une seule femme. Mon Dieu! Quel était le problème de cette femme? Quel était était le problème de cette femme qui faisait aucun homme ne restait pas avec elle. Elle ne perdait pas les maris. Il la quittait. Amen. Il la quittait. Tout simplement. Les puissants des ténèbres, les puissants maléfiques de Jéricho qui travaillent contre toi, contre cette femme, feront tout leur possible pour faire échouer ce mariage. Amen. Je prie pour toi. Afin que tout embargo satanique empêchant les bonnes choses d'arriver dans ta vie soit levé et détruit au nom de Jésus. Soit levé et détruit au nom de Jésus. Soit levé et détruit au nom de Jésus. Il y a deux catégories de personnes en ce qui concerne l'embargo satanique. Deux catégories de personnes en ce qui concerne l'embargo satanique. Bien aimé, la première catégorie de personnes, c'est ce que j'appelle les victimes conscientes. Amen. Les victimes conscientes. Vous voyez, il y a des personnes qui réalisent elles-mêmes clairement que les avantages ne leur parviennent pas comme cela est pour les autres. Amen. D'autres vivent des avantages qu'elles ne peuvent pas vivre alors qu'elles fournissent un effort au-delà de ce que les autres fournissent. Amen. Ces personnes réalisent donc clairement que les avantages ne leur parviennent pas comme cela est possible pour les autres. Elles sont donc qualifiées et compétentes, mais ne sont jamais prises en considération pour des emplois ou pour des promotions ou pour des nominations. On nomme des personnes de plus en plus moins capées que de plus en plus moins expérimentées que... Amen. Elles sont belles et bien élevées, mais ne sont pas demandées en mariage. La deuxième catégorie de personnes, en ce qui concerne l'embargo satanique, bien aimé, est celle des victimes inconscientes. Vous voyez, dans les victimes conscientes, rappelez-vous dans le livre de Jéricho, dans le livre de Deux Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22, les gens de Jéricho, eux-mêmes parlent de la ville, de l'état de la ville, ils font le diagnostic de la ville. Ce n'est pas Élisée qui a fait le diagnostic, c'est eux-mêmes qui disent la ville est bonne, le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises. Amen. Rappelez-vous de cet homme qui va venir vers les disciples de Jésus avec son enfant, qui était lunatique, qui tombait dans le feu, qui tombait dans l'eau, et qui va demander le secours des apôtres. La Bible dit que les apôtres n'ont rien pu faire pour lui. Et quand il va venir vers Jésus, il va expliquer la situation. Ce n'est pas Jésus qui va dire, mon enfant a été possédé d'un esprit de mutisme et de surdité. Non. Ce n'est pas Jésus qui va lui dire, ton enfant est attaqué par un esprit d'épilepsie. Non. C'est cet homme-là qui dit à Jésus, mon enfant est attaqué par tel esprit et il se comporte comme ça de temps en temps. Vous voyez, c'est une victime consciente. Il y a des gens qui sont victimes de la situation, qui sont conscients de la situation dans laquelle ils sont, mais ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Ils cherchent la solution. Mais dans la deuxième catégorie, bien aimé, c'est ce que j'ai appelé donc les victimes inconscientes. Premièrement, les victimes inconscientes, pourquoi? Les victimes inconscientes, parmi les victimes inconscientes, il y a les personnes qui oublient le plus souvent leurs songes. C'est très dangereux d'oublier ses songes. La Bible dit clairement dans Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Amen. Alors, chaque fois qu'un homme oublie ou passe... Ou ne se souvient pas de ses songes, il a un problème. Je ne dis pas le genre que tu oublies une fois sur quatre, hein, ou deux fois sur quatre, non. Je dis tu ne te souviens du tout pas. Sur au moins 5 ans, tu ne sais pas de quoi tu rêves, tu dors aussi. Tu dors, tu te couches, tu dors, tu te réveilles. C'est comme si quand tu te couches, presse un interrupteur. Après, à 6 ans, presse l'autre, debout. Tu es un mort vivant. Amen. Tu es déjà un mort vivant. Alors, il est donc important de ne pas oublier la deuxième catégorie des victimes inconscientes. Ce sont des personnes, je dis des personnes qui oublient leurs songes, n'est-ce pas? Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ne rêvent pas du tout. Ou pensent qu'elles ne rêvent pas du tout. Alléluia. Je l'ai plusieurs fois dit, bien aimé, rêver, ça fait partie de l'activité physiologique d'un homme. Amen. C'est normal. Ça fait partie de l'activité de ton corps. Pourquoi? Tu dors. Il y a ce qu'on appelle une réinitialisation. Amen. Une réinitialisation de ton logiciel onirique. Amen. Onirique, ça vient... ça parle de rêve. Amen. Ça parle de rêve. Alors, il est important pour toi que ton logiciel soit renouvelé. Pour beaucoup qui ne s'en souviennent pas, c'est parce que le logiciel est saturé des préoccupations de la journée. C'est pourquoi ils en rêvent. Parce que le patron s'est énervé de la nuit, il rêve que le patron les poursuit. Du coup, pour lui, c'est un sorcier. Alléluia. 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 On est en train de réfléchir. Hein? On pose les fondements. Est-ce qu'on est ensemble? On pose les fondements. Il ne rêve pas du tout. Ou il pense qu'il ne rêve pas. Parfois, le diable nous donne l'illusion que nous ne rêvons pas du tout. Amen. Que nous ne rêvons pas du tout. Vous savez, Joseph n'a eu que deux songes qui ont changé sa vie. Tu n'as pas besoin de rêver chaque jour. Fais la liste, fais l'agenda de tous tes rêves chaque jour pour que ça ait un sens. Il y a les gens qui documentent tous leurs rêves du 1er au 30. Non. Pourquoi que Joseph ne rêvait pas? Mais il n'y a que eu deux que la Bible a enregistrés qui a changé son histoire. Te donne ce genre de rêve. Je prie que Dieu te donne ce genre de rêve et que tu t'en souviennes au nom de Jésus. Et que tu t'en souviennes au nom de Jésus. Et que tu t'en souviennes au nom de Jésus. Pharaon a eu un seul rêve. C'est pas ça? Un seul. Ça a changé l'histoire de sa vie. Nabucodonosor, il a eu un seul rêve. Ça a changé l'histoire de sa vie. Belshazzar, il n'a pas eu de rêve, il a eu une vision. Ça a changé l'histoire de sa vie. Alors, ce n'est pas le nombre de tes songes qui font que Dieu va beaucoup t'utiliser. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, fais attention. Qu'est-ce qui est pertinent? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Parfois, ce qui est pertinent n'attire pas notre attention. Amen. Et ce qui n'est pas pertinent obsède notre esprit toute la journée. Vraiment, la nuit, si j'ai rêvé, comment on mettait quelque chose sur mon pied, c'est sûr que je suis bloqué. C'est sûr que... Alors, ce qui a un sens, tu n'y es plus. Tu n'y es même pas du tout. Chaque fois qu'on a eu l'opportunité de faire des exercices d'interprétation des songes, on s'est rendu compte que ce qui n'était pas pertinent pour nous était pertinent pour Dieu. Alléluia. Et ce qui était pertinent pour Dieu n'était du tout pas pertinent pour nous. Et on dit, non, ça n'a pas de sens. Ah, c'est un rêve comme ça. Mais quand le Seigneur nous en donne l'interprétation, on dit, oh, mais c'est toute mon histoire. L'autre jour, maman, j'ai pu me partager un de ses songes. Et il y avait une partie où, je ne sais plus, il y avait une histoire de confusion. Il y avait une histoire de confusion. Tu te rappelles? Voilà, elle a oublié. C'est pas sérieux. Yeah, là. Amen. Alors, il y avait cette histoire que j'ai interprétée comme la confusion professionnellement et dans ses activités. Amen. Et il y avait cette histoire où il y avait des tâches. Des défécations sur ses pieds. C'était ça? Ok. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Je vais pouvoir l'écouter. Allez-y rapidement. Merci. Allons-y rapidement. Ok.
J'avais fait un songe où je me retrouvais dans mon quartier d'enfance et on marchait avec Eto. Oui. Arrivé à un niveau, j'avais la chaussure au pied, ma chaussure a eu des problèmes.
Sa chaussure a eu des problèmes.
Et je me suis retrouvé, on marchait, il fallait qu'il m'achète une autre chaussure.
Oui.
On arrive alors, la boutique qu'il croyait trouver la chaussure, on ne trouve pas, la couture n'était pas ouverte. Uh-huh. C'est là où on trouve une mercerie plutôt. Mm-hmm. C'est là où je tends la main, je poignée de boutons.
Ok.
Et oui. Et un bouton tombe. Uh-huh. Une petite fille ramasse le bouton et me remet le bouton. Et il me donne un chèque. Mm-hmm. Et dans le chèque, son nom n'y était pas.
Voilà, son nom
n'y était pas. Au lieu de nom de Samuel Eto'o, c'était
le nom de son petit frère.
De son petit frère.
Et il te demande d'aller toucher de l'argent.
D'aller toucher de l'argent. Et il me dit de ne pas prendre plus de 10.
Plus de 10. Voilà. Oui, c'est bizarre, n'est-ce pas? Tu n'as rien compris. N'est-ce pas? Amen. Mais ça avait un sens. Lorsque le Seigneur nous a donné d'interpréter, elle a ouvert les yeux, elle a dit, mais c'est exactement ce que je vis. Amen. C'est exactement, je garde l'interprétation pour elle, pas pour vous, c'est pour elle. Si tu veux savoir, tu la vois à la fin du culte. Alléluia. Amen. Mais pour vous dire que, écoutez son son, ça n'a pas de sens en réalité. C'est tellement tordu, mais c'est pertinent pour le Seigneur. Amen. Pour elle, elle peut se réveiller et dire, ah, ça c'est qu'elles sont tordues, ça. Tordues. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y a donc cette partie, cette deuxième catégorie de personnes qui sont donc des victimes inconscientes. Elles vivent l'embargo dans leur vie. Et ça, parce que si le monde spirituel est fermé au-dessus de ta vie, le monde physique aura du mal à déclencher. Amen. Parce que tout ce que tu vis physiquement est commandé spirituellement. Alléluia. Je prie pour toi que tu ouvres tes yeux au nom de Jésus pour comprendre ce que tu vis au nom de Jésus. Alors, il existe donc différents types d'embargo. Allons-y, avançons. Il existe donc différents types d'embargo. Alors, je vais vous donner différents types d'embargo et chacun va identifier sa part. Amen. Chacun va identifier ce qui le concerne. Le premier type d'embargo, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle l'embargo collectif. Amen. L'embargo collectif, ici, il s'agit d'un embargo sur un groupe de personnes, comme une famille, un village, une communauté ou même une nation ayant un cycle d'expériences similaires, comme nous le voyons dans 2 Rois chapitre 6, le verset 26. Amen. 2 Rois chapitre 6, le verset 25. Amen. Donc, l'embargo collectif, c'est un embargo qui concerne une famille, qui concerne une maison, qui concerne même une génération. Amen. Qui concerne un sexe particulier dans la famille. Ça veut dire les filles sont sous embargo, les garçons peuvent évoluer. Alléluia. Ou le contraire, ou les deux sexes, ça affecte les deux sexes dans la maison. Alléluia. Donc, à ce moment-là, on a besoin de se lever dans la prière. 2 Rois chapitre 6, le verset 25. 2 Rois 6, 25. Je vais lire au nom de Jésus. Voilà. La Bible dit, il y a une grande famine dans Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'un âne valait 86 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Vous voyez? C'était une grande famine qui a eu du temps du roi Ben-Hadad. Et c'est Élisée qui va libérer la ville de Samarie. Alléluia. Donc, vous voyez ici que toute la ville de Samarie était sous embargo. Alléluia. Rappelez-vous également dans le livre de Jonas chapitre 1, la ville de Ninive qui était sous embargo. Alléluia. Et Dieu a envoyé le prophète Jonas d'aller libérer la délivrance à cet endroit. Et vous connaissez la suite de son histoire. Alléluia. Donc, l'embargo collectif concerne un groupe de personnes. Pas une seule personne, mais un groupe de personnes. Amen. Alors, il y a un homme de Dieu qui partageait un témoignage selon lequel une femme était venue vers lui en pleurant pour solliciter de l'aide. Et elle racontait que quelques temps en arrière, qu'il y avait 6 filles qui avaient toutes connu un mariage dans la famille, qui avaient toutes connu un mariage retardé. Alléluia. 6 filles. Sa mère avait donné naissance à 6 filles et les 6 filles avaient connu un mariage retardé. Alléluia. Donc, il s'agissait là d'un embargo familial collectif. Et donc, après que l'homme de Dieu a prié avec cette dame, la délivrance a eu lieu dans la famille. Alléluia. Amen. Donc, le deuxième type d'embargo, c'est l'embargo sélectif ou individuel. Ici, l'ennemi s'attaque à une seule personne, à une personne spécifique dans la maison, à une personne spécifique dans la famille, à une personne spécifique même dans l'entreprise. Alléluia. Et donc, cet embargo où une personne est désignée comme cible par les puissances des ténèbres. Et parfois, la situation semble empirer, même après que vous ayez prié, comme nous le voyons avec Jésus, dans Marc 4, le verset 1 à 6. Alléluia. Marc 4, le verset 1 à 6. Donc, vous voyez que quand vous êtes là, parfois, l'ennemi cible une seule personne. Et en général, l'embargo cible la clé de la délivrance familiale. Amen. Celui qui a la clé de la délivrance familiale. Comme Joseph, comme David, alléluia, comme Rebecca, comme Anne, comme Marie, comme Elisabeth. En les plaçant sur un arbre spécifique qui va pouvoir bloquer l'accès aux autres. C'est pourquoi il y a 2 types de personnes qui subissent généralement ce type d'embargo. C'est généralement les premiers-nés ou les derniers-nés. Amen. Les premiers-nés ou les derniers-nés. Les premiers-nés parce qu'ils sont la porte d'entrée. Dans toute famille où les premiers-nés sont bloqués, les autres auront du mal à se développer. Ils vont se battre comme ils peuvent. Ils ne s'en sortiront pas. Ou bien ils s'en sortiront avec beaucoup de difficultés. Parce que les premiers-nés, Dieu a établi les premiers-nés comme la porte. Celui qui donne l'accès aux autres. Amen. Celui qui donne l'accès aux autres. Celui qui porte. Regardez, quand vous allez dans le livre de Genèse chapitre 49, écoutez la parole que Jacob va déclarer sur la vie de Ruben. Alléluia. Genèse chapitre 49. Alléluia. Alors, je lis au nom de Jésus. Genèse 49, à partir du verset 3. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né, écoutez la suite, ma force. Alléluia. Ma force est les prémices de ma vigueur. Ça veut dire les premiers-nés, qu'ils soient filles ou garçons, sont la force et la vigueur des parents. Ils portent tout l'héritage en eux. Alors, s'ils échouent, ça affecte le reste. Bûche, ça affecte le reste. S'ils sont arrêtés, ça affecte le reste. Amen. Ma force est les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Il était supérieur. Mais il a perdu tout ce qu'il est allé chercher sous la couche de son père, ce qui ne le concernait pas. Amen. Alors, les premiers-nés ont une force importante. Les derniers, vous verrez ça avec Joseph. Joseph était le dernier. Non, avant, il a eu les songes avant que Benjamin arrive. Amen. Joseph, ça veut dire celui qu'on ajoute. Ça dit que Jacob avait fait tous ses enfants. Alors Dieu lui a ajouté Joseph. Joseph était né de quelle maman? Rachel. Joseph était donc le premier fils de Rachel. Le premier né. Alors, Pourquoi Joseph a hérité de la bénédiction? Parce que Rachel était la femme que son père avait aimée. Était donc dans le cœur de son père la première femme. Quelqu'un n'a pas écouté. Alléluia. Léa est entrée par la manipulation de son père. Alléluia. Mais au départ, Rachel était la première femme, first lady, dans son cœur. Donc, du coup, Joseph était donc, par l'alliance du cœur de son père, le premier-né devant tous les autres. Maintenant, est-ce que quelqu'un comprend pourquoi Joseph est puni devant tout le monde? Maintenant, on comprend pourquoi Joseph a eu tout problème. Parce que quelque part, tous les autres savaient que si le papa meurt demain, c'est la maison de Rachel qui va hériter. Alléluia. Et Dieu va donc ajouter un deuxième, s'appelait Benjamin. Benjamin. Amen. Alors, vous verrez également dans le cas de David, il était le dernier. Des huit, il était le dernier. Les sept premiers sont passés. Et le prophète va dire, mais il n'en reste plus. Il dit, non, il y a un dernier là. Le malhonnête Joseph là. Le têtu. Pas en brousse. C'est la brousse qui va le discipliner. Mais il était la porte de toute la famille. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, chaque fois que l'ennemi opère par l'embargo sélectif, il arrête celui qui a la clé de la délivrance de la famille. Il arrête celui-là qui a la bénédiction parentale. C'est pourquoi vous allez voir, tous les parents donnent plus de leur temps aux premiers qu'aux autres. Toute leur force est dans les premiers. Les autres, ils s'appuient sur les premiers pour les gérer. Alléluia. Ça, c'est le schéma. Maintenant, il y a des exceptions. Les premiers sont abandonnés à eux-mêmes. Oh, ça, c'est les parents qui n'ont rien compris. Parce que tout, si tu comprends la logique du Seigneur, tu vas comprendre que tu dois tout maximiser sur les premiers. Parce que les premiers gardent les derniers. Alléluia. Les derniers préservent les derniers. Et la suite. Les premiers montrent le chemin aux autres. Alors, dans la logique du Seigneur, le premier était l'ami du Père. Alléluia. Abraham n'était pas le premier dans sa famille. Abraham était... Ils étaient combien? J'ai enlevé mes mains pour que quelqu'un va dire... Je suis sûr. Genèse chapitre 11. Je vous ai eu. Amen. Verset 27. Et voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Vous voyez, je vous ai mis un piège, vous êtes tous tombés. Abraham était le premier, mais des trois enfants. Amen. Abraham était le premier. Vous voyez, à chaque fois, Dieu travaille toujours avec les premiers. Dieu lui-même travaille avec les premiers. Si tu veux que ta maison soit stable demain, tu dois travailler sur les premiers. Tu dois investir ta discipline, ta communication, ta bénédiction sur les premiers. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Vous voyez? Alors, le troisième type d'embargo est l'embargo financier ou économique. Ah oui, c'est là où tout le monde crie les mots de poche. Alléluia. L'embargo financier ou économique. Et certains des signes de cet embargo sont lorsque vous avez des difficultés permanentes à trouver même un bon boulot. Pas à trouver du boulot, à trouver un bon travail. Alléluia. Tu as du boulot, mais c'est des boulots d'esclaves. Alléluia. Sur lesquels on a dressé ce que la Bible appelle des chocs de corvée, qui ont la responsabilité de te faire pousser des soupirs de pleurs et de lamentations pendant que tu travailles. Tu as du travail, mais tu pleures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez-y dans le livre d'Exode chapitre 1, à partir du verset 8. Vous verrez que le peuple d'Israël, le pharaon va venir juste après la mort de Joseph, va donc décider de donner du travail au peuple d'Israël. C'est pas ça? Et il va donc dresser sur eux des chefs de corvée. Ils avaient du travail, mais ils étaient esclaves. Il y a des gens comme ça. Ils ont du travail, mais ils ont des travaux d'esclaves. Je prie pour toi. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. L'embargo financier. Maintenant, le chef de corvée a donc la responsabilité. C'est lui qui contrôle le flux financier de ta vie. C'est-à-dire, tu travailles même de l'argent. Mais tu, même le travail d'esclave que tu fais, bien aimé, le salaire de ça, tu ne l'as pas. Quelqu'un d'autre contrôle le flux. Et c'est ce que Jacob a expérimenté chez son oncle Laban, qui changeait chaque fois son salaire. Qui changeait. C'est-à-dire que les chefs de corvée ont la responsabilité. Ils sont là pour changer chaque fois ton salaire et pour amener la confusion et la frustration dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Quand on vient à l'église, on met le téléphone sur sonner, sur vibreur, sur silencieux, toutes ces choses. Il n'y a pas un appel plus important que celui de Jésus. Amen. L'embargo. Et c'est là où beaucoup de gens sont perdus pour s'en sortir. Amen. Salomon raconte l'histoire de cet homme, d'un sage pauvre, qui a délivré la ville d'un embargo. Mais lorsqu'il fallait le récompenser, on l'a oublié parce qu'il était pauvre. C'est pourquoi chaque fois que l'ennemi place un embargo financier sur ta vie, il te voile en même temps. Tu deviens invisible pour la faveur. Tu deviens invisible pour des bonnes connexions. Tu deviens invisible pour des aides divines. Alléluia. 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 Est-ce que je peux avancer? Beaucoup d'enfants de Dieu sont sous l'autorité des chefs de corvée. Chef de corvée, ça peut être son patron, ça peut être son collaborateur, ça peut être son autorité hiérarchique. Par qui le diable passe pour rendre son travail pénible. Pénible. Alléluia. Pour rendre son travail compliqué. Ça veut dire, c'est le diable s'arrange à ce que cette personne n'est jamais contente de ton travail. Jamais content. Tout ce que tu fais, il trouve un piège dedans pour t'accuser. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes sur l'embargo financier et économique. Amen. Alors, je vous ai dit, il y a ce premier type d'embargo financier où tu peux trouver du travail, mais c'est un travail d'esclave. Alléluia. Maintenant, il y a le deuxième type d'embargo où tu ne trouves même pas de travail. Tu deviens un mendiant de la vie. Tu deviens un mendiant de la vie. Tu mendies tout pour t'en sortir. Tu mendies tout pour vivre. En fait, tu survis. Alléluia. Tu n'as même pas droit à quelque chose. En fait, tu n'as droit à rien. Le diable jette sur toi ce qu'on appelle le manteau de l'inutilité. Amen. Le manteau de l'inutilité. Tu deviens inutile dans la vie. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui sont inutiles. Le diable s'arrange à ce qu'ils soient inutiles. Le diable les fait comprendre qu'ils sont inutiles. Alléluia. Alléluia. Et donc, ces différents signes que je suis en train de vous montrer vous permettent de comprendre. Bien aimé, tout ce qui peut améliorer votre situation financière ne fonctionne jamais bien. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Premier signe, premier type. Ils sont sur des chefs de corvée. Ils trouvent du boulot, mais ce sont des boulots d'esclaves. Deuxième type, ils n'en trouvent même pas. Alléluia. Et il devient par conséquent inutile. Inutile. Rappelez-vous, la Bible dit quelque part, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Cette loi s'applique spirituellement. Alors tu ne peux rien, tu ne peux pas ne rien faire et t'attendre à avoir quelque chose. Et donc le diable fonctionne avec une certaine, avec un carton rouge sur ta vie de manière permanente. Carton rouge. Carton rouge, carton rouge, carton rouge. Il n'a pas droit à ça. 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 Elle n'a pas droit à ça. Elle n'a pas droit à ça. Et ce carton rouge, c'est une accusation de manière permanente sur ta vie. Pour que rien de bon n'arrive devant toi. Je prie pour toi. Cet embargo tombe ce soir. 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 Au nom de Jésus. Pendant que tu écoutes cet enseignement, cet embargo tombe au nom de Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Parce que tu connais cette réalité maintenant. Le diable n'aura plus la puissance pour te tenir en captivité au nom de Jésus. Vous voyez? Et donc, un autre type d'embargo. Un autre type d'embargo, bien aimé, c'est ce qu'on appelle l'embargo matrimonial. L'embargo matrimonial. Elle opère à plusieurs niveaux. Premier niveau, la victime est dans l'incapacité de marier. Bien qu'elle a tout et tous les atouts. Alléluia. Bien qu'il ait ou qu'elle ait tous les atouts physiques, intellectuels, moraux, financiers même. Mais n'y arrive pas. Alléluia. 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 Alors ça, c'est le premier type. La victime est donc sous embargo. Tout ce dont elle a besoin pour pouvoir l'introduire dans ce qui lui revient, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle peut seulement assister. Elle peut assister au mari de ses amis. Elle peut être gardien. Elle peut être fondeur de tous ses capacités. Il peut être gardien des salles, de tous ses amis, garder la cambuse de tous ses camarades. Mais il regarde ça de loin. C'est ton tour cette fois-ci, au nom de Jésus. C'est ton tour cette fois-ci, au nom de Jésus. Deuxième niveau. Apparemment, il ne doit pas trop bouger de mon hôtel. Le micro, c'est... Aujourd'hui, là, je suis prisonnier. L'ennemi peut me mettre sous embargo sur mon hôtel. C'est brisé au nom de Jésus. Alors, le deuxième niveau de l'embargo matrimonial, c'est que tu as même accès au mariage, mais le fruit de tes entrailles est mis hors jeu. Amen. Le fruit de tes entrailles est mis hors jeu. Rappelez-vous de Jean chapitre 2. La Bible parle de ce mariage dont Jésus a été invité avec sa mère. Et la Bible dit que lorsqu'il va arriver à ce mariage, le vin vint à manquer. Ah oui, oui, bien aimé. Le vin est un élément de réjouissance. Le vin est un élément de joie. Le vin est un élément de communion. Alléluia. Le vin est un élément qui aplanit un certain nombre de challenges. Alléluia. Psaume 113, le verset 9. La Bible dit, il fait de celle qui était stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Loué soit l'Éternel. Amen. Il fait de celle qui était, il donne à celle qui était stérile une maison. Une maison. Et fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Bien aimé, autrement dit, une femme qui n'a pas le fruit des entrailles n'a pas la possession de sa maison. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Psaume 113. Est-ce que tu as lu? Tu as su que j'ai cité le bon verset? Le verset combien? 9. Qu'est-ce qu'il dit? Une maison à celle qui était. Il fait d'elle une main joyeuse au milieu de ses enfants. Oh, la parole de Dieu est formidable. Il donne à celle qui était stérile une maison. La maison, c'est quoi? Ce n'est pas les quatre murs. La maison, c'est la stabilité, la paix. Amen. La maison, c'est la stabilité, la paix. Beaucoup de foyers sont détruits aujourd'hui à cause du fruit des entrailles. Mais n'oublions pas ceci. L'enfant est un don. Est un don, non, de la famille. C'est ça? De la belle famille, c'est ça? Du mari, c'est ça? De la femme, c'est ça? De Dieu. Rappelez-vous de Elkana, quand Anne lui demandait, donne pour moi d'enfant, comme tu as donné à Penina. Il dit, maman, c'est moi qui fabrique. Je n'ai pas de moule. C'est à Dieu qu'il faut demander. Alléluia. Jusqu'au moment où Anne va se calmer, va comprendre que l'appel là ne dépendait ni de son mari, qui avait des spermatozoïdes vigoureux. Alléluia. Donc, ça ne dépendait pas de lui. Ça dépendait de Dieu. Dieu avait permis cette circonstance pour glorifier son nom. Alléluia. Alléluia. Donc, nous parlons ici donc, de ce mariage. Le vin ici représente le fruit des entrailles. Le vin ici est l'élément de joie. Le vin ici est l'élément de célébration dans la maison. Alléluia. Alléluia. Okay. J'arrête comme ça là. J'arrête comme ça. Et donc nous parlons de l'embargo matrimonial. Premier niveau, nous nous retrouvons au premier niveau de l'embargo matrimonial. On a parlé de quoi? Pas de mariage malgré tous les atouts. Amen. Deuxième niveau, mariage mais pas fruit des entrailles. Troisième niveau, divorce. Amen. C'est-à-dire que tu te maries, tu as des enfants, mais il y a divorce. Alléluia. Ce genre d'embargo programme dans la lignée de cette famille ce qu'on appelle le remariage. Vous ne pouvez pas vous remarier. Amen. Vous entrez dans le mariage, vous brisez. Vous vous remariez. Alléluia. Et ça, c'est également la troisième niveau. Troisième niveau. Et donc, vous voyez, dans certaines familles, les problèmes vont s'accumuler au point où les deux personnes vont se séparer. Et ça va repartir comme ça. Et cela va encourager dans la famille ce qu'on va appeler la polygamie. Alléluia. La polygamie. Quelqu'un un jour on buvait du jus et quelqu'un a panaché du jus de d'orange plus le jus de. Il a fait un truc de trois jus en même temps comme ça. Et puis là, il a pris. Et un frère qui était là à l'époque, il a dit, mais tu serais un polygame. C'est l'esprit de polygamie dans la bouteille là. Alléluia. Et pendant beaucoup d'années, pendant un certain nombre de temps dans ma marche chrétienne, je ne panachais plus. Mais arrière de moi, esprit de polygamie. Il dit que même quand tu mélanges plusieurs types de jus, c'est que tu vas avoir plusieurs femmes. C'est l'esprit de plusieurs femmes qui t'anime. Alléluia. Alors moi-même, quand je voyais quelqu'un dit, frère, ne panache pas. L'esprit de polygamie va s'attacher à toi. Amen. Mais il ne s'agissait pas de ça. Alléluia. Alors, avançons. Le prochain niveau, ou je vais appeler ça le dernier niveau de l'embargo, c'est l'embargo sur les déplacements, ou du moins les voyages. Alléluia. Alors, n'oubliez pas que Dieu a inscrit dans l'ADN de tout enfant de Dieu d'aller avec l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il est important de comprendre que le voyage est lié dans l'ADN de tout enfant de Dieu. Alors, se lever et prier pour le voyage, je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Non. Dans ce cas, vous pouvez avoir des problèmes avec vos documents de voyage, votre passeport et même des manipulations financières juste pour frustrer vos efforts pour voyager. Et il peut s'agir d'une alliance diabolique venant à vous imiter. Le voyons dans 1 Rois chapitre 2, le verset 36 à 40. L'archbishop Benson Duncan William du Ghana partageait un témoignage un jour d'un homme de Dieu, alléluia, qu'il avait rejoint en compagnie d'autres personnes pour participer à un programme à l'étranger. Alléluia. Et il dit ceci, juste avant qu'il ne n'embarque à l'arrivée, le système corporel de l'homme a commencé à changer. Et il ne fait plus beaucoup de vie. C'est-à-dire que quoi? Juste au moment où on devait embarquer dans l'avion, le pasteur est devenu fou. Et il est devenu inconscient. Au point où on l'a ramené à l'hôpital pour le soigner. Et l'archbishop Duncan William a dit, voyage. Ils ont donc continué le voyage. Et jusqu'à ils ont embarqué et qu'ils ont atterri dans le pays où ils devaient arriver, ils ont appelé au pays pour dire, mais comment il va? On dit non, après votre départ, il se portait bien maintenant. Alléluia. Parce que toi, tu ne voyages pas. Les autres peuvent partir. Alléluia. C'est compliqué. C'est compliqué. On a vu des histoires comme ça. Je vous ai partagé le témoignage de ces pasteurs. L'apôtre Johnson Suleiman partageait. Il a pris un de ses fils pour voyager avec lui. Il a fait le passeport, tout. Il arrive à l'aéroport. On check son nom dans l'ordinateur. Ça affiche. On voit la photo. C'est la photo d'une femme. On dit, mais tu as volé. Il dit, tout, c'est moi ici. On dit, mais qui est la femme là? Il dit, je ne connais pas. C'est de son village, mon frère, qui a voyagé chez vous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il fut un temps. Aujourd'hui, c'est un peu beaucoup changé. Amen. La venue des réseaux sociaux, de toutes ces choses-là. Avant, quand quelqu'un voyageait dans la famille, même s'il allait dans un pays à côté africain, même s'il devait prendre l'avion seulement pour aller à Garoua, c'est tout le village qui venait, hein, avec l'arbre de paix pour chasser les démons du village. Est-ce que vous avez vécu ça? Mais j'ai vécu ça, j'avais une de mes oncles. Il partait au Congo pour la première fois. Amen. Tout le village est venu. Chacun était avec l'arbre de paix. Oh, oh, oh. Oh, avec les jujubes. Oh. Je crois qu'il a étouffé tout la voiture. C'était fort. Aujourd'hui, quelqu'un va tranquillement. Et quand il arrive, qu'il appelle tout le village, je suis arrivé. C'était mondial. C'était qu'il ne fallait pas rater. Il ne fallait pas qu'on te raconte que tel est parti. Et c'était aussi l'occasion de voir l'aéroport. Amen. C'était l'occasion aussi de monter sur l'escalier roulant. Parce que ça existait à l'aéroport à l'époque. Et ça t'amenait là où tu voyais les avions monter et descendre. Aujourd'hui, on ne permet plus de monter. C'est devenu compliqué. L'aéroport, à l'époque là, tu pouvais voir les gens manger et boire partout. Aujourd'hui, c'est compliqué. Du moins, il n'y a qu'au Cameroun que l'aéroport est encore inaccessible. En Côte d'Ivoire, l'aéroport est accessible. Tout le monde rentre. Il n'y a qu'ici qu'on vous met loin là-bas aux gens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu rentres à l'aéroport. En France, tu rentres à l'aéroport. En Allemagne, tu rentres dans l'aéroport. À Istanbul, qui a le plus grand aéroport en Europe. Mon Dieu, si tu vas à Istanbul, tu vas chuter. Au moins 10 avions atterrissent au même moment. C'est fort. C'est fort. Pour quitter d'un point A pour aller à un point B, tu peux mettre 45 minutes. Parce que l'aéroport est grand et vaste. Et si on ne t'aide pas, tu peux rater ton vol. Et dans l'aéroport, il y a des salons de massage. Donc, tu peux t'asseoir dans un fauteuil de massage, tu oublies ton vol. Alléluia. Il y a des lieux de massage. Donc, il y a tout un confort. Et vous verrez des gens se coucher depuis 2 jours parce qu'ils ont leur vol dans 2 jours. Dis donc. Amen. Amen. C'est encore compliqué. En tout cas, on parle de l'embargo sur les voyages. Amen. C'est là-bas qu'on y est. Amen. Récemment, on était à l'aéroport quand papa Béa arrivait du Canada. Et j'étais avec certains pasteurs. Et on était postés là, on attendait on regardait les tableaux des arrivées des avions. Et on a vu toute une famille arriver, ils avaient tout un t-shirt. Ils avaient mis la photo de leur bien-aimé qui arrivait sur le t-shirt et ils disaient « Bienvenue à la maison, nous t'aimons. » Alléluia. J'ai dit que c'est ça. Ça doit être la première personne qui a voyagé dans la famille. Quand on va à ce niveau-là, c'est grave. Alléluia. Amen. 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 C'est fort. Avant, quand quelqu'un rentrait de voyage, c'était la fête. On venait, on préparait. Les gens venaient de Yaoundé, Baboussam, tout ça. On venait à la maison, on prépare. La veille, on prépare. C'est la fête. C'est la délivrance. Tout le monde veut le toucher. On veut toucher, on veut toucher. Les sorciers n'étaient pas encore nombreux comme aujourd'hui. Amen. Non, aujourd'hui, ils sont violents. Ils sont violents, maman Sylvie. Ils sont violents. Dès que ta personne part avant que tu fais la fête derrière. Parce que là-bas, eux-mêmes, ils ne prennent pas l'avion. Le soir, ils prennent la boîte de sardines. Ils retrouvent ton bien-aimé là-bas. Ils disent, rentre vite. Sorcier qui part même un mois avant que tu annonces à toute la famille. Alléluia. Tu annonces à tout le monde. Quand il m'envoie plus tel, il a trouvé le travail en Banga Pongo. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé. Donc, dans notre texte que nous voyons, nous parlons de Jéricho encore une fois de plus. Nous voyons qu'en raison de la déclaration de Josué, a été mis en place. Alléluia. Un embargo a été mis en place. Alors, dans le livre de 1 Roi chapitre 2, nous voyons Josué maudit la ville de Jéricho. Alléluia. Plus tard, nous allons voir Josué lui-même, juste pendant cette bataille, juste après la bataille, il va maudire la ville de Jéricho. Amen. Il va maudire la ville de Jéricho. Et une malédiction, un embargo va être placé sur la ville de Jéricho. Et Josué va dire, celui qui bâtira Jéricho, la fondation il élèvera avec la mort de son premier-né, et les murs il élèvera avec la mort de son deuxième-né. Aïe, quel embargo dangereux. Il y a des gens dans des familles qui ne peuvent rien faire parce qu'il y a un embargo qui apporte la mort sur tout ce qu'ils font. Je prie pour toi. Que l'œuvre de tes mains associée à la mort dans ta famille est brisée au nom de Jésus. 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 Alléluia. Donc, vous voyez, Josué a donc mis cet embargo sur la ville. Il a mis cet embargo sur la ville. Il a dit, ok, vous nous empêchez de passer. Nous, on va passer. Jéricho est brisé, détruit. Parce que les murs de Jéricho, après le septième cri des enfants d'Israël, les murs tombent. Et quand les murs tombent, Josué prononce une parole sur la ville de Jéricho. Et puis, à cause de cette parole, Yael de Bethel va venir perdre son fils et son deuxième fils en rebâtissant la ville. Alléluia. En rebâtissant. Donc, cette malédiction va perdurer pendant de nombreuses années jusqu'à l'époque d'Élisée. De Rois chapitre 2. Alléluia. À partir du verset 22 au verset à partir du verset 19 au verset 22. Amen. Donc, jusqu'à l'époque de Jéricho, lorsque le peuple va donc appeler à l'aide, parce que rien de bon ne se produisait dans le pays et qu'il y avait de la misère jusqu'à ce que Élisée fasse une contre-déclaration et que l'embargo soit levé. Vous voyez? Certains groupes de personnes peuvent donc imposer un embargo sur la vie d'autres personnes. Amen. Certaines personnes. Alors, l'un d'entre eux, l'une des catégories de personnes qui peut déclarer une malédiction sur une personne, une nation, une ville, un village, bien-aimé. C'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle les institutions. Alléluia. Les institutions gouvernementales. Amen. Quand celui qui a la tête de votre nation s'élève et déclare des paroles négatives, ça affecte toute une nation. Ou bien prendre des mauvaises décisions, ça affecte toute la nation. Alléluia. Ça affecte toute la nation. Regardez le roi Akab, les décisions qu'il a prises. Ça a détruit toute la nation. Ça a affecté négativement la nation. Chaque fois, regardez ce que Roboam a pris comme décision. Ça a affecté toute la nation d'Israël. Au point où la nation s'est divisée en deux. Une partie est partie avec Juda, une partie est restée en Israël. Alléluia. Donc, ça c'est la première catégorie. La deuxième catégorie des personnes qui peuvent déclencher un embargo sur une nation bien-aimée, ce sont les figures d'autorité. Un père déclencher une malédiction sur lui. Alléluia. Un patriarche. Alléluia. Un patriarche. Nous le voyons avec Genèse 49, le verset 3 à 4. Nous voyons cela, la malédiction que Cob va prononcer sur Ruben et qui va être restaurée 500 ans plus tard par Moïse. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, le verset 4. Alléluia. 4. Nous voyons également une figure d'autorité également prononcer malédiction sur la vie de son enfant, la maman de Jabez. Amen. parce qu'elle a accouché dans la douleur. Elle donne à son fils le nom de Jabez, fils de la douleur. Elle n'a pas eu la chance que Benjamin a eue. Lorsque Rachel, en accouchant, Benjamin a eu des douleurs. Elle a voulu lui donner le nom de Benoni, fils de la douleur. Son père a dit non. Il s'appellera Benjamin. Il n'y avait personne pour Jabez. Ah oui, il n'y avait personne. Lorsque la maman a décrété la douleur sur sa vie. Je prie pour toi, bien-aimé. Chaque fois que l'ennemi voudra prononcer quelque chose de négatif sur ta vie, qu'il se tienne pour toi quelqu'un qui parlera en ta faveur. Qu'il se tienne pour toi quelqu'un qui redressera les torts. Qu'il se tienne quelqu'un qui parlera pour toi en faveur. Qui parlera pour toi en faveur. Au nom de Jésus. Voyez? Un embargo sur la joie et l'épanouissement dans sa vie a été mis en place à cause du nom donné à cet homme. En tant que parents, bien-aimés et autorités spirituelles, nous devons faire attention à ce que nous disons aux personnes qui sont sous notre responsabilité. N'insulte pas ton enfant chien, salopard, tu ne seras rien. Non, tu détruis la vie d'une personne. Amen. Tu détruis la vie. Parce que tu as une autorité sur cette vie. Ces paroles vont finir par parler négativement contre cet enfant et cette personne. Et elle n'a pas le gabarit pour contrecarrer cette parole. C'est pourquoi Ruben a connu la mort. Ruben a connu la destruction. Jusqu'à ce que Moïse vienne et qu'il dit que Ruben vive et que ces hommes soient nombreux. Amen. Ça veut dire que la mort prématurée était liée à la famille de Ruben. Alléluia. Je prie pour toi. S'il y a une parole qui a été dite contre ta vie, par un parent, par une autorité dans ta vie qui parle négativement contre toi, aujourd'hui je me tiens comme autorité du Seigneur. Je révoque cette parole au nom de Jésus. 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 Alléluia. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Je déclare la faveur sur ta vie. Je déclare la réussite sur ta vie. Je déclare l'élévation au nom de Jésus. La stabilité, l'établissement au nom de Jésus. La joie et la paix au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voyez? Et la troisième personne qui peut également placer un embargo sur la vie d'une personne. Nous avons parlé des institutions gouvernementales, comme des rois, comme des présidents. Alléluia. Comme des personnes qui font les lois dans une nation. Alléluia. Ensuite, nous avons vu les parents, des pasteurs, des hommes spirituels autour de vous. Alléluia. Il faut faire attention. Maintenant, la troisième personne qui peut également placer un embargo autour d'une personne, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu a un embargo sur un homme à cause de sa désobéissance. J'ai dit à cause de quoi? Sa désobéissance. À cause de sa désobéissance. Alors, encore une fois, Dieu peut placer on peut mettre un embargo sur un homme à cause de sa désobéissance. Deutéronome 28, le verset 23. Nous voyons les malédictions qui atteignent ceux qui n'obéissent pas à la volonté et à la voix de Dieu. Amen. Donc, nous voyons Deutéronome chapitre 28, du verset 1 au verset 14. Nous voyons les bénédictions du verset 15. Nous voyons les malédiction. Alors au verset 23, il dit, le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Amen. Alors, il est donc difficile pour une victime de recevoir la pluie du ciel, de recevoir la faveur de Dieu, de vivre la faveur de Dieu, de cultiver le sol pour recevoir la bénédiction. Amen. Alors, il y a un frère qui a été délivré par un pasteur et dont il y avait quelque temps avait confessé qu'il se voyait toujours en train de labourer le sol dans ses révélations avec où tous les soirs. Amen. Tous les soirs. Comment tu peux labourer un sol sec avec où tous les soirs? Ça veut dire la terre est de fer. Et c'était une tâche horrible, car le sol était fait de béton. Et il se réveillait chaque jour épuisé et paraissait plus vieux que son âge. Et cela s'est produit pendant une dizaine d'années. Alléluia. Et donc, au cours de la délivrance, une vieille femme s'est manifestée en lui et Dieu a mis fin à toutes les difficultés de sa vie. Alléluia. Je prie pour toi. Tout esprit, toute autorité, tout manipulateur, tout agent des ténèbres, mandaté depuis ta lignée pour rendre ta terre de fer, pour rendre ton ciel de rein. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Assois-toi, bien-aimé. Voyez? Donc, vous voyez que l'embargo a donc une place dangereuse dans la vie d'un homme. Et ma prière pour toi, c'est que tu, après cet enseignement, que tu puisses recevoir ta délivrance. Amen. Tu puisses recevoir ta délivrance. Au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Acclame pour Jésus. Alléluia. 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 Nous allons continuer vendredi prochain avec le même thème. Nous allons terminer vendredi prochain. Je voudrais que vous mettiez dans un esprit de prière. À cause de ce soir, je ne peux pas évoquer dans la prière. Alléluia. Mais je crois que les déclarations, je crois que les enseignements réveillent ton esprit et au-delà et derrière ces enseignements, tu as déjà des points de prière. Alléluia. Donc, nous reviendrons là-dessus et nous prions de manière conséquente. Amen. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je déclare, je décrète tout embargo lié à ma famille, lié à ma région, lié à ma race, lié à ma taille, lié à mon âge, lié à mon rang familial, est brisé. Est brisé. Prie. Shalababababababa. Rekete papakata. Shatakata lekete. Rebakata lokoto. Shakata laba. Remakata lokoto. Shaka baba baba baba. Pri. Tout satanique lié à ta taille, lié à ton âge, lié à ton rang social, à ton rang de naissance, à ta race, à ta tribu, oui, à ton niveau académique, à ta couleur de peau, est brisé sur ta vie, est brisé sur ta famille, est brisé. Chakata baba 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 baba. Nom de Jésus. Cet embargo est tombé. Au nom de Jésus.